Bonjour et bienvenue dans le podcast Art Écovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Anne de La Sayette. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, première question, Anne, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et vous présenter ?
Oui, alors je suis Anne de La Sayette. Je suis la créatrice du CRIT horticole que j'ai créé il y a plusieurs dizaines d'années, on va dire 35 ans, quand j'étais jeune, petite agronome fraîchement sortie de mes études. Et un peu par hasard, je me suis retrouvée, si je peux dire, dans la région Nouvelle-Aquitaine, à Angoulême très exactement, où j'ai créé avec un autre ingénieur, thermicien lui, le CRIT horticole, qui est une structure associative, innovation et transfert de technologies dans le domaine horticole, au sens large du terme. Et il se trouve qu'un concours de circonstances bienheureuses nous a fait nous installer à Rochefort, sur-mer, car la ville de Rochefort avait un projet de développement de serres pour produire des produits horticoles sous serre, et pour accompagner un projet très intéressant de, comment dirais-je, d'hébergement d'une collection de bégonias, parce que Rochefort était un port d'importation de végétaux, de nouveaux végétaux venus du Nouveau Monde au XVIIe, XVIIIe et un peu XIXe siècle. Et beaucoup de végétaux ont été introduits en Europe par le port de Rochefort. Il y a aussi celui de Nantes et de Bordeaux. Et il y avait à Rochefort toute une communauté scientifique, un hôpital de la marine, un musée de médecine navale et un jardin botanique qui n'était autre que l'antichambre de celui de Paris. Donc il y avait toute une réflexion de développement économique il y a 30 ans à Rochefort autour du végétal, de l'horticulture, des plantes au sens large. Et nous, petits agronomes, on était en train de monter cette structure technologique et c'est assez naturellement que nous avons été accueillis à Rochefort pour développer un certain nombre d'activités économiques.
D'accord. Et alors le CRIT horticole du coup, donc c'est combien de personnes, quelles sont les activités, qu'est-ce que vous y faites, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ?
Oui, alors au bout de quelques années de développement, nous sommes arrivés à une maturité, si on peut le dire, évidemment. Donc, c'est une équipe actuellement de 16 personnes qui sont toutes, qui ont toutes une formation autour de la plante. Alors, on a pas mal d'ingénieurs agronomes, on a des ingénieurs horticoles, on a des botanistes et on a des gens qui sont spécialisés en physiologie végétale. Donc, c'est quand même une équipe de scientifiques d'abord. On a 4 grands thèmes d'activité. L'un, historiquement, est lié à la serre. Donc, nous sommes des spécialistes de la serre et de ses équipements. Nous concevons, nous dessinons des serres et nous concevons aussi les équipements dessous, c'est-à-dire l'irrigation, la fertilisation, les automatismes qui vont permettre de produire les plantes dans les meilleures conditions. On est, je pense, en France, le bureau d'études le plus connu dans ce domaine de l'ingénierie serre. Ce sont des serres de production horticole ornementale ou des serres de maraîchage. Pas mal de serres botaniques. Par exemple, en ce moment, on rénove les serres du parc de la Tête d'Or à Lyon. Des serres de recherche. On vient de livrer les serres de recherche de l'AgroParisTech à Saclay, qui sont des serres confinées. Ça, c'est le premier grand type d'activité. Un deuxième grand type a trait à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ou les green cities, qu'on pratique depuis une dizaine d'années, mais il se trouve qu'on est dans le vent en ce moment. Donc c'est tout ce qui va concerner justement des serres sur des toits en ville, pour la production maraîchère notamment, mais c'est aussi toute la problématique autour des îlots de chaleur et du rafraîchissement des villes.
D'accord.
Voilà, ça c'est assez innovant. Et troisième volet très agronomique aussi, on a à Rochefort la chance d'avoir une zone horticole où on a accueilli un certain nombre d'horticulteurs et maraîchers, et nous-mêmes nous possédons une serre de 3 500 m² sous laquelle on fait un certain nombre d'expérimentations. Par exemple, en ce moment, nous appliquons à acclimater la vigne, la culture de la vigne sous serre, par exemple, avec le Centre interprofessionnel de la vigne et du vin. Donc, on fait un certain nombre d'expérimentations sous notre serre. Et puis, bien sûr, le quatrième volet de notre activité, qui est arrivé finalement assez vite, hein, il y a 25 ans, c'est la partie colorants végétaux. Alors, ce qui relie tout ça, c'est le mot végétal, c'est la connaissance du végétal. Voilà nos activités actuellement.
D'accord, ok, c'est très clair. Alors du coup, sur la partie colorants végétaux, si j'ai bien compris, du coup, il y a une entité à part spécifique, c'est bien ça, c'est couleurs de plantes.
Alors non, dans un premier, enfin, il y a deux entités, c'est-à-dire que le CRIT Horticole est toujours la structure qui mène et qui continue à mener des travaux de recherche et développement. D'accord. Dans le domaine des plantes colorantes et des colorants végétaux au sens large.
D'accord.
C'est-à-dire que le CRIT Horticole continue à mener des expérimentations agronomiques et botaniques, du sourcing de nouvelles plantes et au laboratoire met au point de nouveaux extraits végétaux. Ça, c'est okay. Le CRIT Horticole, c'est toujours au CRIT Horticole. Et puis, le CRIT, comme je l'ai dit au tout début, est une association. Il est labellisé centre de ressources technologiques, donc il n'a pas une vocation commerciale au sens propre du terme. C'est vraiment une structure qui fait de l'interface, qui va travailler avec d'autres structures, avec des PME, avec un certain nombre de gens, et il va mettre à profit ces technologies pour ces entreprises-là. Il se trouve que sur la partie colorant naturel, on commençait à avoir des contrats de recherche, ça nous va bien, mais aussi s'est posé très rapidement, bien sûr, la question de la production en grand de ces colorants et pigments. Développement qu'on a fait au sein du CRIT. Et à partir du moment où il a fallu vendre et commercialiser ces colorants, c'était plus le job d'une structure telle que la nôtre, nous avons créé la société privée Couleurs de Plantes en 2005, donc qui, elle, a comme mission de produire en grande quantité, et surtout de commercialiser, de vendre ces colorants et ces pigments végétaux. Donc il y a bien deux structures dont je suis, je suis la directrice en fait des deux structures, et les équipes, c'est vrai, sont quand même très proches, puisque nous partageons des locaux dans les magnifiques bâtiments 18e de l'Arsenal de Rochefort, on a cette chance-là, au bord de la Charente. Le laboratoire est partagé, et donc au CRIT, il y a 16 personnes, et chez Couleurs de Plantes, il y a maintenant 4 personnes. Et c'est cette équipe-là qui travaille ensemble.
D'accord, c'est plus clair pour moi. D'accord, et donc du coup, là, si on parle sur la partie produit donc, de couleurs de plantes, je voulais savoir quel type de produit propose couleurs de plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les types de produits?
Oui, alors, il y a un peu un jargon dans le domaine des colorants naturels, et il y a quelques difficultés parce que les termes français sont pas forcément les mêmes en anglais, en fait. Alors, nous produisons, pour être simple, à partir de plantes, de végétaux, nous allons produire des extraits solubles, très concentrés, que nous appelons extraits. Donc à partir d'une même plante, on va prendre, allez, la bien connue Garance, que nous produisons ici dans la région, j'en parlerai peut-être un peu après. Nous allons produire un extrait très concentré, soluble, qui va donc être utilisable pour, en gros, tout ce qui se teint. Donc qu'est-ce qui se teint? Ben, du textile, évidemment, du cheveu, du papier, du cuir, éventuellement des produits cosmétiques. Donc, extrait soluble. À partir de la même plante, cet extrait, on peut aussi l'insolubiliser, c'est-à-dire former ce qu'on appelait autrefois une laque, ce que nous appelons un pigment, qui est une forme technologique finalement insoluble de ce colorant. Donc ce pigment insoluble, il va lui être utilisé pour des applications qui demandent une couvrance, par exemple de la peinture, par exemple du maquillage, ou plus récemment de la coloration, ça c'est notre grand cheval de bataille en ce moment, de bioplastique et de biomatériaux. Donc on a deux formes technologiques, on propose des extraits solubles et des pigments insolubles. Les pigments peuvent aussi d'ailleurs être utilisés dans le domaine de l'impression textile, quand on a besoin de pigments. Pour aller un peu plus loin sur ces formes technologiques, certains de nos pigments, notamment pour la cosmétique, nous les avons, comment dirais-je, sous forme d'huile pigmentaire. C'est-à-dire, comme ils sont assez difficiles à disperser, notamment dans des matières lipidiques, nous avons un tricylindre, qui est un appareil qui permet de mélanger un pigment insoluble et une huile, en général une huile de tournesol, et qui va aider à broyer très finement ce pigment. Et au bout du compte, on a donc un troisième type de produit qui est une, ce qu'on appelle nous une huile pigmentaire, qui va par exemple faciliter l'incorporation dans des formules cosmétiques et dans la savonnerie, puisqu'on a pas mal de clients qui sont des savonniers et qui utilisent donc l'huile pigmentaire.
D'accord, ok. C'est une nouvelle application que je ne connaissais pas, donc top, huile pigmentaire. Ok, très bien. Et alors du coup, alors je ne sais pas dans quel ordre la poser cette question, parce qu'elle est un peu, on va voir comment on la prend, mais vous travaillez, donc il y a la production que vous faites au Crit Horticole dans vos serres, qui sert pour la réalisation des colorants, pigments et huiles pigmentaires, ou c'est de l'approvisionnement auprès d'agriculteurs de la région, d'Europe et du monde. Comment ça fonctionne ?
Alors, le sourcing, je vais un peu vous décrire ça. Alors, non, sous les serres, nos serres à nous, elles ne servent pas à produire, elles sont 3000 m², c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Elles ne servent pas à produire des plantes dites tinctoriales. En revanche, elles nous servent pour faire des essais de germination. Quand on a du nouveau matériel végétal, on fait nos tests sous la serre. On peut faire un peu de multiplication, mais la majorité, évidemment, de la production de plantes tinctoriales, elle est faite majoritairement dans notre région, donc dans les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, qui présentent l'avantage d'être très ensoleillés comme département et de ne pas avoir pour le moment trop de problèmes de sécheresse. Mmh. Mais enfin, ça, c'est quand même un des problèmes, on en parlera peut-être un peu après. Mmh. Donc, nous avons des agriculteurs, un groupe d'agriculteurs qui sont fidèles depuis plusieurs années, qui, pour nous, produisent des plantes dites tinctoriales. Alors, évidemment, au début, on avait nos parcelles d'expérimentation. Donc, on a d'abord essayé sur des parcelles de 10 sur 10, ce qui est déjà pas si mal, sur 100 mètres carrés. Et au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans de travail acharné sur le plan agronomique, on a pu transférer ces savoir-faire auprès d'agriculteurs locaux. Donc ça, c'est un travail, je dirais, qui est vraiment derrière nous depuis pas mal de temps. Je le décris très rapidement, mais en fait, il a demandé beaucoup de temps, parce que je reprends l'exemple de la garance, faire une version moderne des procédés, des process de production d'une garance, c'est pas facile. Il a fallu retrouver des espèces, les comparer, sélectionner celles qui étaient le mieux adaptées à notre sol et à nos climats ici, et puis réapprendre le process de production d'une garance sur 2, 3, 4, 5 ans, mettre en place le matériel agronomique qui permet de récolter, non pas manuellement, mais mécaniquement, ces produits, puisque dès l'origine, l'objectif du CRIT était une production en grande quantité de ces plantes et de ces colorants. Donc ce travail-là, il est derrière nous pour un certain nombre d'espèces. Donc, on a des agriculteurs qui sont maintenant très habitués et on va donc leur demander tous les ans de produire 2, 3, 5 hectares, par exemple pour la garance, d'une garance que nous ne récolterons avec eux que dans 3, 4 ou 5 ans, évidemment. Voilà. Donc,
oui. Et excusez-moi, ces agriculteurs, ils ont des cultures combinées, c'est-à-dire ils font par exemple du maraîchage ou d'autres cultures que de la plante tinctoriale?
Évidemment.
Voilà, c'était ça. Alors, que je voulais savoir.
Je ne recommanderais à personne de se lancer dans une production unique de plantes tinctoriales. Je pense qu'il faut que ce soit un atelier qui soit pensé au milieu d'autres. Donc, en l'occurrence, on a des agriculteurs ici qui sont soit dans de la polyculture, du maïs, du tournesol, du sorgho, des porte-graines, et qui, dans leurs assolements, introduisent 2 hectares de garance, 2 hectares de réséda, 3 hectares de genêt, des choses comme ça, du sorgho, pas mal, sorgho des teinturiers. Mmh. Donc ça rentre dans la rotation, Ça ne remplace pas et ça ne nuit pas aux cultures alimentaires, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Pas du tout, ça rentre dans une rotation. Une garance avec ses racines sympathiques et développées a tendance, par exemple, à ameubler le sol, ce qui est bénéfique à la culture suivante, qui va par exemple être un tournesol ou une légumineuse. Donc, ça rentre dans la rotation de façon assez naturelle. On a d'autres agriculteurs qui sont en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'ils ont, des ateliers, par exemple, dans le Marais Poitevin, là, on a un agriculteur. C'est d'ailleurs chouette parce que ses deux fils sont en train de reprendre l'exploitation, non loin des fameuses bassines dont,
ah, oui, dont on a entendu parler.
Exactement à côté. Et donc, dans leur rotation, ils ont des vaches charolaises, en l'occurrence, et aussi des cultures de porte-graines. Et donc, les plantes tinctoriales sont un atelier parmi d'autres.
D'accord, ok. Et donc... C'est quoi le pourcentage de la part de plantes qui viennent de France? Parce que je suppose que tout ne vient pas de France.
Non. Alors, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut être de climat tempéré, bien évidemment, est fait ici. Donc, je dirais que ça représente à peu près 60 à 70%, on va dire, des plantes qu'on utilise. Ça, c'est vraiment une particularité. Enfin, ça nous est vraiment propre. Mmh. Et ensuite, bien évidemment, 30 ou 40%, ce sont des plantes ou des colorants tout faits qui viennent évidemment de l'extérieur. Alors, il y a un peu, je dirais deux à trois types. Il y a évidemment l'indigo ferra tinctoria que nous ne savons encore pas faire en Poitou-Charentes ou en Nouvelle-Aquitaine, bien que les températures montent quand même terriblement, mais on a décidé, nous, de continuer à travailler sur cette plante-là, même si on a fait beaucoup d'essais sur aussi l'utilisation du polygonum des tincturiers, qui est une très intéressante plante à indigo. Donc, l'indigo ferra tinctoria, ce bleu royal, il vient d'Inde. C'est vraiment sa région d'origine. Donc, je vais de façon à peu près une fois tous les 2 à 3 ans en Inde, voir le producteur, qui est un fermier, qui lui-même cultive, je crois que c'est à peu près 300 ou 400 hectares d'indigo. Et là aussi, c'est en rotation de culture, c'est très intéressant. Ça vient derrière de l'arachide, en fait. Il cultive beaucoup d'arachide, de cacahuètes. Mmh. Puis, l'année d'après, il va cultiver de l'indigo, qui sont, dans les deux cas, des plantes qui fixent l'azote, d'ailleurs, qui sont très intéressantes. C'est la même famille. Voilà pour l'indigo. Après, on a évidemment les tanins. Alors, les tanins, hormis le châtaignier, le tanin de châtaignier qui vient soit d'Italie, soit de France. Les tanins, c'est quand même des matériels végétaux qui est originaire des pays chauds. C'est-à-dire, en gros, c'est soit l'Inde, soit l'Amérique du Sud. Avec chacun leur particularité. Par exemple, le quebracho, comme son nom l'indique, c'est un tanin qui vient d'Argentine, d'Amérique du Sud, qui est issu d'un arbre. Et nous, on achète la matière première chez les producteurs de ces régions-là.
D'accord.
Un troisième grand type, c'est le campeche, mais c'est pareil. Alors c'est pas un tanin, mais enfin c'est vraiment un arbre issu d'un arbre qui vient d'Amérique centrale en l'occurrence, que vraiment je ne peux pas sourcer
ailleurs.
Non, je ne peux pas.
Et alors du coup, j'ai une question, Anne. Moi qui viens plutôt du monde de l'alimentaire, c'est une question sur donc l'origine des produits, vous nous les avez indiqués, la traçabilité. C'est une question sur la traçabilité et alors je vais y arriver à poser ma question, mais comment vous vous assurez qu'il n'y ait pas de fraude, notamment sur l'indigo, dont on m'a expliqué qu'il était possible de mixer de l'indigo de synthèse dans de l'indigo naturel. Sure. Comment, alors déjà, est-ce que c'est que sur l'indigo ou est-ce que c'est présent dans d'autres exemples? Et comment vous appréhendez le sujet? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que finalement il suffit avec votre labo parce que vous êtes équipé aussi? Comment vous appréhendez ce sujet-là?
Alors, c'est un sujet bien évidemment qu'on abordait depuis pas mal d'années, poussé principalement par nos clients de la cosmétique, parce que c'est vraiment, je dois dire, eux qui nous ont finalement fait faire le plus grand nombre de progrès au début, et je trouve que c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui finalement. Donc traçabilité absolument obligatoire. Donc alors il y a deux types, il y a les colorants qu'on achète tout fait, c'est-à-dire l'indigo, on achète tout fait. J'importe pas la plante, la feuille d'indigo que je transforme ici en pigment, c'est pas possible. Donc j'achète directement du pigment en Inde et j'ai été voir donc plusieurs fois le producteur, donc je sais qu'il produit de l'indigo, restait à savoir si ce qu'il m'envoyait était de son pur indigo ou du mélange. Donc il y a une technique qui s'est relativement démocratisée depuis quelques années, c'est la technique du carbone 14. C'est-à-dire que un indigo naturel, donc c'est du matériel vivant, il va obligatoirement contenir un certain pourcentage de carbone 14. Un indigo de synthèse, minéral totalement de synthèse, ne va quasiment pas en contenir. Donc, on va doser le pourcentage de carbone de synthèse par rapport au carbone biosourcé. Et j'ai donc acheté de l'indigo de synthèse que j'ai envoyé à mon labo. J'ai cultivé quand même un petit peu ici de l'indigo tropical. Alors là, effectivement, sous serre, où j'ai fait un tout petit peu de pigments, je savais que c'était 100% naturel, je l'aurais envoyé. Et puis, j'ai envoyé différents indigos achetés à droite à gauche, dits naturels. Et à l'aveugle, j'ai envoyé ça au labo. C'était très intéressant. La synthèse, c'était 100% de la synthèse. Mon indigo, c'était 100% du biosourcé. Et j'ai eu des surprises quant à ce qui m'est revenu des soi-disant indigos 100% naturels. Donc, je ne vous donnerai pas les fournisseurs indélicats qui m'ont envoyé ça, mais ça a été réglé avec eux. Et je sais maintenant que ce que j'achète, notamment chez mon fameux producteur, est 100% biosourcé. Quand il m'envoie un batch, en général, j'achète entre 200 et 400 kilos, je contrôle et je ne le paye qu'une fois que je sais que c'est 100% naturel. Ça, d'accord, c'est pour le biosourcé. Après, par exemple, j'achète aussi du henné. Alors, le henné, c'est du henné. Mais je ne sais pas s'il n'est pas mélangé avec une autre plante, ce qui est autre chose. C'est-à-dire que là, je vais effectivement donner 100% de biosourcé. Suis-je certaine que ce soit de l'indigo? Alors là, nous utilisons une autre méthode qui est l'ADN. Donc, il y a des méthodes qui se sont tout à fait là aussi démocratisées qu'un labo français, d'ailleurs, de Lyon, qui est capable de me dire si c'est que du henné ou si c'est du henné avec autre chose. Et il est même capable de me dire si c'est du henné d'Inde ou du henné du Maroc. Donc, là, on est clean.
D'accord, sure. Génial. Et donc, c'est surtout sur les extraits en poudre qu'il peut y avoir justement cette... Ouais, d'accord.
Oui, okay. Et c'est pour ça que je préfère en général acheter du produit semi... par exemple, je vais préférer acheter des copeaux de bois que d'acheter une poudre de bois toute faite. C'est-à-dire déjà des copeaux de bois, je vois à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que moins la matière est broyée, mieux, enfin, plus on a de contrôle au moins visuel.
D'accord, ok. Et alors, donc cette partie traçabilité, qualité, analyse et contrefaçon, on y a bien répondu. J'avais une question. Vous avez parlé du domaine de la cosmétique, on a parlé de la teinture. Est-ce que vous pourriez nous dire dans votre activité les différents domaines et le poids à peu près qu'ils représentent? Parce que j'étais surprise dans notre conversation pour préparer ce podcast, en fait, de choses qu'on ne sait pas du tout dans les proportions. Donc, quels sont les domaines d'activité et à peu près les tailles que vous rencontrez dans votre entreprise?
Alors, les domaines d'activité, je dirais qu'il y en a à peu près 4. Le premier d'entre eux, et très, très nettement, c'est la cosmétique. C'est vraiment la cosmétique qui tire ce monde des colorants naturels. On en pense qu'on en veut. Il y a du greenwashing, certainement, mais il y a vraiment des sociétés qui achètent des colorants naturels, beaucoup sur la partie teinture cheveux, qui est vraiment extrêmement, une énorme demande des consommateurs. C'est pas facile parce que les colorants naturels n'ont quand même évidemment pas les mêmes résultats que des colorants de synthèse. Par contre, ils ont des tas de bienfaits sur la tenue du cheveu, sur leur non-toxicité, bien évidemment. Il y a des colorants de capillaires qui vont être bientôt interdits. Enfin, il y en a certains qui le sont déjà. Mais c'est vraiment le premier domaine. Ensuite, c'est celui de la coloration des produits de soins et d'hygiène. Ça peut être des shampoings, ça peut être des crèmes de soins, ça peut être des après-shampoings, voilà. Et puis le domaine du maquillage aussi, beaucoup, pas mal de demandes dans le domaine du maquillage, même si finalement on est un peu déçu là-dessus parce que c'est un domaine, par exemple pour des rouges à lèvres, finalement on utilise assez peu de quantité de pigments, beaucoup moins que pour se teindre les cheveux par exemple. Donc c'est vraiment ce secteur-là qui est premier, qui est, c'est à peu près 60%. Hein.
D'accord.
Ensuite, on a un deuxième secteur, c'est celui des matériaux. La teinture des matériaux, qu'ils soient plastiques, bioplastiques ou encore d'autres matériaux dont je peux pas trop décrire ici, parce qu'il y a des confidentialités, mais on est vraiment très 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 accaparé par des développements dans le domaine de la coloration des bioplastiques notamment et des plastiques recyclés.
Donc du coup, par exemple, moi qui viens de l'alimentaire, je sais qu'il y avait les sujets des 30% de RPET, donc de plastique recyclé pour les bouteilles. Ça peut être, par exemple, une utilisation de reteindre des microplastiques, les injecter. Enfin, je connais pas le process, mais ça peut être ce genre d'utilisation-là.
Complètement. Et ça, c'est des pigments qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle des master batch, c'est-à-dire des petits granulés de plastique avec des pigments très concentrés, à peu près 20% d'incorporation d'un pigment dans un master batch. Et ce sont ces master batch-là qui vont ensuite colorer des plastiques recyclés ou nouveaux. Avec la difficulté pour les plastiques pour l'alimentaire, qu'il faut que tout ça soit OK, contact alimentaire. Donc, il faut que nous prouvions que nos pigments ne migrent pas dans l'alimentaire, dans les yaourts, ou la pizza, ou je ne sais, et qu'ils ne soient évidemment pas toxiques. Donc, tous les pigments végétaux ne passent pas. Certains ne passent pas. Hein, c'est pas parce que c'est végétal que c'est non toxique.
Non. Ouais.
Donc, il y a tout ça. Et après, il y a des colorants de plastique pour de l'emballage qui n'est pas alimentaire. On est sur des produits jouets, des trottinettes, des produits électroménagers. Bon, c'est...
Et quel est l'intérêt pour une entreprise de choisir plutôt des colorants végétaux pour ces plastiques, on va dire, ou pour, enfin,
plastique bio, plastique ou plastique recyclé, moindre impact sur l'environnement, et on sait très bien que les colorants font quand même partie, alors peut-être un peu moins dans le domaine du plastique que sur le textile, je pense, mais quand même des produits qui sont pas terribles. Donc ça va bien évidemment avec le plastique bio.
C'est
assez évident en fait.
D'accord, donc on a dit les cosmétiques, la partie matériaux.
Ensuite, on a une partie textile qui représente à peu près 15%, et puis je vais revenir dessus après, et 10% autres. Alors autres, c'est par exemple la partie peinture, qu'elle soit, alors plutôt peinture pour artistes,
beaux-arts.
Des gouaches, des beaux-arts, et puis quelques travaux avec des artistes peintres qui sont vraiment très très intéressants. Là, par exemple, on a des travaux avec une Coréenne qui utilise nos pigments, qui s'appelle Ji-Yoon. Alors, je sais pas, il faudra que un jour je vous l'enverrai parce que c'est absolument magnifique. Elle fait des peintures traditionnelles coréennes sur des papiers coréens et elle est en train d'exposer en ce moment à la galerie d'art du Louvre. Et elle utilise en l'occurrence nos extraits pour faire des choses absolument admirables. Ça, c'est 10% à peu près de nos ventes. Et dans ce 10%, je mets tout ce qui est demande boutique en ligne. Parce qu'en fait, je reviendrai sur le textile peut-être après, mais on a deux types de ventes. On a une vente boutique en ligne, donc on nous trouve sur à Couleur de Plante boutique en ligne où on peut acheter des toutes petites quantités. Et ça, je sais que les gens achètent pas seulement pour du textile, mais pour un tas d'usages que j'ignore moi-même quelquefois. Et voilà. Et donc le textile, c'est environ 15% de ce qu'on vend. Alors là, pour le coup, sur le plan industriel, puisque donc on a deux sites, le site boutique en ligne où on a des tout petits contenants, des toutes petites quantités de, je crois que c'est 20 grammes ou 50 le démarrage, je ne me souviens plus, il faut aller voir sur la boutique. Et après, sur le plan industriel, évidemment, on vend 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, quoi.
Ok, et alors du coup, dans le textile, c'est textile habillement, ça peut être aussi ameublement, c'est tous les types de textile ou vous sentez plutôt que dans la mode ou...
Alors, le textile, c'est le serpent de mer de notre aventure colorant naturel qui, à la fois, me déçoit et me et me motive parce que je trouve quand même que c'est le secteur sur lequel le visuel est le plus admirable. Je préfère un beau textile coloré avec nos magnifiques colorants que qu'un rouge à lèvres ou qu'un cosmétique dans le fond ou qu'un henné sur mes cheveux. Enfin, je trouve que c'est le voilà, c'est le médium, si je peux dire, qui est le plus génial. Et d'un autre côté, c'est ce qui depuis 20 ans nous déçoit le plus. C'est vraiment une industrie qui a beaucoup de mal à évoluer. Comme on le sait bien, elle a quand même été beaucoup délocalisée. Enfin, c'est autant on a des entreprises cosmétiques, voire même dans le domaine de la peinture ou même des plastiques, beaucoup en Europe. Autant le textile, on le sait bien, il a été délocalisé depuis vraiment longtemps. Or, il y a un acteur complètement incontournable dans le milieu du textile, c'est l'ennoblisseur, c'est-à-dire le teinturier. Et les teinturiers, il y en a très peu finalement qui ont résisté en Europe. Donc, on a quand même un savoir-faire qui est un peu parti ailleurs. On a des grosses maisons d'habillement dont on sait qu'elles ont d'ailleurs en ce moment quand même beaucoup de difficultés, hein, on le sait tous, qui font teindre partout dans le monde sauf en Europe. On a eu, nous, des contacts avec des teinturiers dans ces pays lointains qui se sont tous soldés par des échecs, beaucoup de difficultés à envoyer nos colorants, à envoyer nos recettes, parce que vendre un colorant, ça suffit pas. On a fait un énorme travail sur le process de teinture, et on est très déçus de ce qu'il en est peu sorti. Donc actuellement, il y a quand même un recentrage sur des demandes qui sont des demandes d'entreprises de plus petite taille. Deux choses, quelques ennoblisseurs qui restent en France, avec lesquels on est quand même en train de sortir des choses. Je pense que le Covid aussi est passé par là, donc il y a vraiment une demande de local, etc. On peut répondre puisqu'on a la quantité qu'il faut, au moins en quantité. Je reviendrai après sur les solidités, les couleurs. Et puis aussi de jeunes créateurs. Je pense que c'est vraiment, le salut viendra de jeunes créateurs qui veulent vraiment et avec sincérité lancer des choses, peut-être sur des fibres dites nouvelles. On parle beaucoup du chanvre, donc on a par exemple un beau projet chanvre là dans Nouvelle-Aquitaine, sur du lin, sur d'autres fibres. Et là, on voit que ça commence à bouger de nouveau, à bouger un petit peu. Donc nous, on accompagne ça. On travaille beaucoup sur les recettes de teinture en essayant de les optimiser. On est beaucoup en train de travailler sur les mordants et sur le fait de pouvoir peut-être, et on va peut-être sortir ça l'année prochaine, remplacer les mordants, certains mordants métalliques pour certains colorants par d'autres choses. On est bien conscient qu'il y a quand même un frein, on va dire ça. Voilà, pour la partie teinture. Alors,
vous entendez des mordants à base de plantes ?
Non.
Parce qu'à part... Non, mais non, encore d'autres choses. Ok, d'accord. Bon, bah, super.
On va dire biotech.
D'accord, ok.
Biotech. On va dire biotech. Oui, ça peut être à base de plantes, mais pas que.
D'accord, ok. Est-ce que vous travaillez dans les commandes que vous recevez? Je suppose qu'il n'y a pas que des commandes de France. Vous travaillez avec d'autres pays? Il y a d'autres pays qui vous...
Oui. Oui. Alors, on travaille, un peu avec l'Italie. Qui est quand même un pays de teinture et de textile et de maquillage. Il faut savoir que la plupart des maquillages faits en Europe sont en fait fabriqués en Italie, y compris pour les grandes marques, hein, que sont Chanel, Dior et autres. Voilà. On travaille avec les États-Unis depuis pas très longtemps sur de l'impression, une fabrication d'encre, d'impression textile à base de pigments. Donc ça devrait sortir là, c'est un gros marché qui s'ouvre pour nous. Le frein à l'entrée, c'est la réglementation américaine, hein, bien sûr. Hein. C'est l'équivalent de REACH chez nous, mais ils ont un équivalent qui s'appelle la TSCA, et donc il faut répondre à ça si on veut vendre aux États-Unis. Et curieusement, nous avons un client chinois depuis 6-7 ans maintenant, avec lequel ça marche bien, en teinture de cachemire. Donc je suis allée là-bas, ils y sont venus, et en fait, on fait des affaires qui sont pas mauvaises avec eux, sur la teinture de cachemire, sachant que c'est eux qui produisent le cachemire, et ils ont, et ça aide beaucoup, une teinturerie intégrée, ce qui aide beaucoup quand on a un donneur d'ordre qui fait lui-même sa teinture et la confection et la vente, ce qui est évite d'avoir plein d'intermédiaires et de la déperdition de
d'informations,
de techniques, d'informations et d'argent, finalement, au bout du compte.
Eh ben, écoutez, ça fait parfaitement la transition avec ma question d'après. Avec votre expérience, votre recul, donc vous avez dit, ça fait 35 ans ouais. que le CRIT est créé, 25 ans, si je dis pas de bêtises, sur couleur de plantes.
Presque, oui.
Selon vous, quels sont donc les verrous qui pourraient encore sauter dans l'industrie textile? Parce que c'est là où, comme vous disiez, vous êtes un peu plus, on va dire, déçu par rapport au, à la, comment on va dire, à l'émergence de ce secteur. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire sauter voilà tous ces verrous et faire qu'on s'y remette et que ce soit une réelle alternative sérieuse aux colorants de synthèse?
Il y a plusieurs verrous et je les ai un peu exposés. J'anticipe peut-être un peu, mais dans une conférence que j'ai faite au mois d'août, qui est publiée depuis la semaine dernière, en fait, avec bien d'autres conférences, où on me demandait très exactement ça, les verrous dans les différents types d'industries. Donc, c'est une conférence que j'ai faite à IHC, c'est le Symposium International de l'Horticulture, qui a lieu tous les 4 ans et qui, au mois d'août dernier, a eu lieu à Angers, en France. Donc, je pourrais faire passer.
Oui, les liens, je peux les mettre. Les liens, je peux les mettre dans les. Ouais,
pas de problème. Je donnerai ça. Peut-être avant de parler des verrous, une petite parce que on a fait une approche que souvent les gens nous demandent, mais en fait, si on remplaçait les colorants de synthèse par des colorants végétaux, quelle surface faudrait? Et donc, je me suis livrée à une évaluation assez amusante, donc en prenant des chiffres de consommation 2018 sur des fibres naturelles, c'est-à-dire coton, laine et lin. En sachant que dans les fibres naturelles, le coton est majoritaire à 90%. S'il fallait teindre tout le coton produit en 2018 par des colorants naturels, il faudrait la surface de la Belgique. Alors, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup la surface de la Belgique. Et la surface de la Belgique, c'est à peu près la surface cultivée en tabac dans le monde entier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il est possible de produire des colorants naturels en quantité avec lesquels on pourrait teindre beaucoup de textiles sans empiéter tant que ça, sans empiéter beaucoup dans le fond, sur la surface agricole utile mondiale. Voilà, je fais une parenthèse là-dessus, c'est souvent une question qu'on nous pose. Et bien évidemment, c'est une question que nous oppose l'industrie chimique, qui nous dit, ok les gars, mais... on remplace par quoi? Crise alimentaire, pénurie, etc. Non, c'est un faux argument. Donc celui-là, déjà, faut le démolir. Donc les freins, ils viennent beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'on freine. Je suis désolé de le dire, mais les freins...
Non, mais les lobbies
viennent, bien sûr, ils viennent beaucoup des lobbies chimiques. On voit bien actuellement les lobbies de l'industrie des pesticides. C'est terrifiant. Donc imaginez bien que l'industrie chimique, c'est pareil, elle n'a pas très envie de perdre sa production de colorants de chimie. Bon, une fois qu'on a dit ça, les teinturiers et les gens du textile, ils ont des outils qui permettent pas forcément de teindre convenablement des colorants naturels. Donc, quelquefois, il faut quand même adapter les machines chez les industriels. Donc, ça demande un effort. Et puis, mais ça, à la limite, c'est pas le plus important. La quantité... On nous demande, mais oui, mais les volumes, les volumes, on les a. Enfin, c'est plus ça. Donc ensuite, il y a le process. Alors le process, les eaux usées. Alors les eaux usées, vous teignez avec un colorant naturel, même s'il a des traces de mordant, parce qu'on a beaucoup réduit ça, on a fait les analyses, c'est de toute façon moins toxique qu'un colorant chimique. Et puis, c'est un matériel qui est biodégradable. Bon. Donc après... il y a les deux questions principales, qui sont la question du coût et des solidités. Alors, les solidités, là aussi, c'est le mythe, si je peux dire, des réglementations qui ont été faites pour les colorants de synthèse, quand les colorants naturels n'existaient plus, et voilà. Et on veut comparer l'un et l'autre. Et est-ce que le consommateur, est vraiment si attaché que ça aux fameuses solidités? C'est-à-dire quand vous vous portez un t-shirt, mettons en colorant en coton, mettons coton recyclé, puisqu'il y a quand même de plus en plus de recyclés. Avez-vous envie qu'il soit solide à la lumière pendant 20 ans ou même pendant 10? Je crois pas. Enfin, je pense qu'en fait, on a mis des standards qui sont ceux des colorants chimiques, qu'on les impose aux colorants naturels, ce qui est absolument débile. De même, les solidités lavage. Par facilité, on va vous vendre un vêtement que vous pourriez peut-être éventuellement laver à 60, 70, 80, 90 degrés. Y a-t-il beaucoup de consommateurs qui lavent maintenant leurs vêtements à 90 degrés? Je ne le crois pas. Je pense que le t-shirt, maintenant, on va tous les mettre maintenant, une machine à 40 ou 50, gentiment et avec un savon qui soit pas trop, comment dirais-je, abrasif. Voilà. Donc, on a un frein qui est de comparer ces colorants naturels et des chimies avec des réglementations qui ont été faites pour les colorants chimiques. Et ça, on nous l'oppose. Les services marketing nous l'opposent parce qu'ils ont peur des retours clients. Mais je pense en fait que le consommateur, que les clients sont dans le fait plus en avance que ne le sont les industriels eux-mêmes. Et je pense que le jour où il y en aura un vraiment qui se lancera, ce qui pourrait peut-être être le cas d'ici un an ou deux, les autres suivront. Donc je pense que c'est beaucoup de, une espèce de comment dirais-je, de paquets en vrac, d'arguments que je trouve mauvais, pour préserver le marché des colorants de synthèse. Je pense que c'est quand même beaucoup ça. Donc des freins, techniquement, j'en vois pas beaucoup. Ensuite, prix, oui, ce sont des colorants qui sont plus chers que les colorants de synthèse. Mais encore faut-il calculer l'impact le cost in use, ce qu'on appelle le cost in use, c'est-à-dire l'impact du colorant dans le produit fini. En fait, quand vous commencez à faire le calcul, vous êtes étonné de son très faible coût. Donc même si votre colorant végétal il est trois fois plus cher que le colorant de synthèse, s'il passe de 0,5% à 1,5% dans le produit fini, ben ça impacte peu. Alors je ne dis pas qu'il y ait des marchés pour lesquels ce ne soit pas très impactant, mais voilà. Enfin bon, je pourrais.
Non mais c'est hyper intéressant. Je voudrais rebondir sur le premier levier dont vous avez parlé sur les terres qu'il faudrait pour cultiver des plantes tinctoriales. Mmh. J'avais un échange avec Marie Marquet sur le fait, enfin on se posait la question sur le fait de moi je suis beaucoup dans l'alimentaire, c'est mon parcours. Il y avait donc tout ce qui est les réglementations HVE et la demande que les exploitations aient beaucoup plus de biodiversité sur leurs parcelles. Oui. Et en fait ma question c'était est-ce que purement ça pourrait être combiné quand on parle de bandes enherbées, de haies, de tout ce qu'on veut, est-ce que pour vous ce serait envisageable de combiner comme vous le faites en fait, de la polyculture, de l'élevage, avec des espaces dans les exploitations qui sont dédiés à accueillir soit des plantes tinctoriales, soit des arbres aussi qui ont ces vertus-là. Est-ce que pour vous, c'est complètement stupide de réfléchir comme ça et ça augmenterait le travail de l'agriculteur, ou est-ce qu'en fait, c'est un modèle qu'il faudrait réfléchir et peut-être poser?
Non, comme je le disais au début, c'est une culture de diversification qui rentre dans une rotation de culture et qui c'est tout à fait logique. Enfin, je veux dire, il y a aucun frein à rentrer ces productions-là dans un itinéraire culturel total. Et les haies, on avait planté il y a plusieurs années des haies dites tinctoriales. On a plein d'espèces tinctoriales qu'on peut rentrer, qu'on peut faire produire dans des haies, comme on a des haies de fruitiers ou d'arbres de tiges d'alignement, où on peut tout à fait avoir des arbustes tinctoriaux, bien évidemment.
Et alors, qui incite ou parle de ces choses-là?
Personne.
Parce que, ben voilà, c'est ma question.
Personne.
En fait.
Je serais un jeune agronome. J'en rêve de revenir à mes chères études. Il y a un monde à explorer à ce niveau-là, mais pas seulement avec les plantes tinctoriales. Je veux dire, ça vient dans effectivement la réflexion globale sur la biodiversité des exploitations et sur le fait de replanter des haies et de mettre des espèces et de diversifier les espèces. Et ça va aussi avec la réflexion sur on en parle beaucoup en ce moment, les cultures non irriguées, parce que la plupart des cultures dont je vous parle et qu'on cultive ici, elles sont. On a besoin d'un début d'irrigation pour l'implantation en général, au semis, et ensuite, elles n'ont plus besoin d'être irriguées. Donc c'est, ça va dans cette réflexion globale. Et de même, je parlais d'agronomie, y a tout à faire encore, à mon avis, à se saisir d'une culture comme la garance. Nous, on a fait une sélection massale d'un certain nombre d'espèces qu'on a juste comparées parce qu'elles venaient de divers jardins botaniques, en gros, d'Europe. Quasiment, on pourrait très bien créer une variété, hein. Donc on y réfléchit, nous, à créer des variétés de garance, voilà. Donc, ça peut inspirer des agros et j'en veux bien chez moi.
Le message est passé. Alors, du coup, sur la partie, donc dans chaque épisode, comme je vous le disais, on parle de la partie transmission. Ça m'est venu l'idée suite à l'épisode de Dominique Cardon qui alertait sur le fait qu'on était en train de perdre cette transmission de savoir, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites soit à l'oral, etc., mais qu'il fallait, voilà, transmettre davantage. Ma question, c'est qu'est-ce que vous, avec tout votre savoir, toute votre expérience, comment vous transmettez ? Alors, vous avez donné une piste avec les colloques, enfin comment on appelle ça, les interventions. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui vous sollicite, comment vous intervenez pour passer ce message-là et transmettre votre savoir ?
Alors déjà, le savoir, on le transmet d'abord de façon égoïste, si je peux dire, à l'équipe en interne, l'équipe a grossi, elle s'est rajeunie assez considérablement depuis 5-6 ans. Donc déjà, on s'attache à ce que l'équipe, petit à petit, soit très formée à la fois sur la partie agronomie, mais sur la partie aussi biochimie. Donc là, on a un jeune docteur depuis pas longtemps, dont c'est le boulot maintenant. Et puis, il faut pas oublier qu'on a la société commerciale Couleur de Plantes qui doit vivre et se développer, on l'espère. Voilà. Donc, c'est vrai que d'abord, on réserve ce qu'on sait à nous-mêmes, je dois le dire. Ensuite, en tant que CRIT Innovation, transfert de techno. Alors, j'interviens pas mal dans des congrès. Alors, un peu moins avec le Covid, mais ça a repris. Le grand congrès IHC, vraiment, j'invite vos auditeurs à acquérir, je crois que c'est 60 euros, quelque chose comme ça, je vous donnerai voilà. Il y a d'autres congrès qui vont venir, il y en a un du même tonneau au Japon dans 3 ans. On est assez fiers, finalement, dans ce congrès horticole, qui comprend 21 petits symposiums sur les plantes aromatiques, sur les plantes médicinales, sur les carottes, la génétique de la banane, etc. Pour la première fois, il y a eu un symposium sur les natural dyes. Donc, on a fait rentrer dans la Société internationale d'horticulture, ISHS, la thématique des natural dyes. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on était parents pauvres. On ne savait pas où aller mettre ces fichues plantes tinctoriales. Eh ben, elles sont maintenant dans un symposium et dans un groupe de travail international. Et donc, au Japon, dans 3 ans, qui reprend le prochain grand colloque, l'organisateur qui était à Angers est venu me voir et je pense qu'on va continuer ça. Donc, déjà, il y a des réseaux scientifiques qui existent. Il faut que ces colorants naturels y rentrent dans ces réseaux scientifiques. C'est absolument indispensable. On peut pas faire dans notre coin tout seul. Il faut que ça devienne, au même titre que les plantes aromatiques et médicinales, finalement, une.
Et comment on fait ça concrètement? Ça veut dire qu'il faut aller frapper à la porte des gens qui sont qui organisent des événements scientifiques ou qui sont dans des sujets agricoles et leur dire attendez, il existe autre chose, est-ce qu'on peut vous faire découvrir? Oui, donc c'est en gros prendre son bâton de pèlerin et aller défendre.
Beaucoup dans les écoles, ça commence dans les écoles et dans les universités, pas mal dans les écoles d'agronomie à mon sens, ça commence à venir un peu au même titre que ça n'a rien à voir, mais sur l'agriculture urbaine dont on s'occupe aussi, on a fait ça depuis 10 ans nous, maintenant c'est voilà, il y a maintenant des masters d'agriculture urbaine, faudrait des masters de colorants naturels, dans les domaines de la biochimie, de la botanique, de l'agronomie, je pense qu'on n'en sortira pas sans ça. Il y a quand même beaucoup de biotech actuellement aussi. Il y a aussi des colorants qui sont maintenant produits, non pas par des végétaux, mais par des bactéries.
Bactéries.
On ne peut absolument pas mettre ça à la poubelle. Au contraire, il faut que tout ce monde-là, il se parle. Sinon, on ne fera aucun progrès et on stagnera.
Alors, j'ai essayé de contacter l'entreprise Pili qui, apparemment, si j'ai bien tout saisi, travaille sur les bactéries. Pour l'instant, ils sont trop occupés, je pense, pour. Mais j'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui travaille.
Oui, on les connaît bien, Pili. Donc, je trouve intéressant de contacter Pili. Je trouve aussi intéressant les sociétés qui font des colorants à base d'algues.
Oui, En termes de transmission, est-ce que vous aviez d'autres choses à nous partager?
En termes de transmission, par exemple, oui, on a des stagiaires, bien évidemment. On a toujours au labo un ou deux stagiaires par an, donc auxquels on est en ce moment en train de faire une thèse sur une technique d'extraction, des comparaisons de techniques d'extraction avec l'université de Bordeaux, qui j'espère débouchera sur des innovations, parce que je pense en fait qu'on a besoin d'innovation. Je pense qu'on a besoin d'innovation scientifique et technique, y compris dans le monde du textile, pour que ces colorants accrochent mieux, pour qu'on remplace ces mordants. Et voilà, enfin, je pense que maintenant, on a trop stagné depuis 25 ans.
D'accord. Dans la partie plutôt des inspirations, je voulais savoir vous qui déjà juste Anne une question moi sortie de mon école d'ingé agro, j'ai pas eu cette voie ce que vous avez créé enfin ça c'est venu comment d'un coup vous êtes dit moi je veux me mettre là-dedans, c'est ça que je veux faire, enfin c'est quand même hallucinant vous voyez ce que je veux dire direct de savoir la voie tout de suite ouais.
Ben écoutez, la vie, c'est un concours de circonstances et des rencontres. Donc c'est vrai que mon école sortant de Nancy puis après de Paris, j'avais fait une master d'agronomie comparée avec l'élève de René Dumont quand même. J'ai eu cette chance-là, très très écolo hein, à l'époque. J'étais bab, hein, y a pas de souci. Et puis j'ai été balancé un peu par hasard dans la région, et là c'est un concours de circonstances. D'abord je tombe dans le domaine horticole, des serres, cette histoire extraordinaire de Rochefort, mais qui allait aussi avec mon appétence pour l'histoire. J'ai fait aussi une licence d'histoire, donc j'étais un petit peu frustré finalement de n'être que scientifique, si je peux dire. Donc j'aimais beaucoup cette idée du bégonia de Rochefort, de l'horticulture, de joindre tout ça. Et puis encore une belle rencontre avec une dame qui faisait de la restauration d'œuvres d'art à Poitiers, qui restaurait les fresques de Notre-Dame-la-Grande avec des pigments synthétiques, et qui me dit « mais moi, je fais des pigments végétaux, et ça va être vachement mieux, c'est comme ça qu'ils faisaient avant, etc. » Je me dis « les pigments végétaux, mais de quoi elle me parle ?» Moi, je connaissais les pigments minéraux, évidemment, mais pas végétaux. Et là, j'ai mis le doigt là-dedans. J'ai bien évidemment, et immédiatement, je suis tombé sur Dominique. On ne peut pas faire un podcast sans parler de Dominique. Rendons à César ce qui appartient. Rendons à Dominique ce qui appartient à Dominique, très cher ami. Et là, je m'aperçois qu'il y avait des gens qui retravaillaient là-dessus, mais plutôt du côté sciences sociales, du côté des techniques, du côté des textiles, mais alors, du côté de l'agronomie pas. Et donc, comme nous, on est un CRIT, c'est l'idée d'un CRIT quand même, innovation. Eh ben, on a foncé, quoi, avec la naïveté de notre jeune âge, on va dire. Et tant mieux. On a foncé, c'est vraiment une question d'opportunité. Et par contre, ensuite, on a été déterminés et patients. Et heureusement qu'on avait d'autres activités à côté, sinon on n'existerait pas. Donc c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure des ateliers de plantes tinctoriales. Il faut que ce soit au milieu d'autres choses. C'est-à-dire que on est encore, il faut des sujets polyvalents et pluriculturels pour avancer. Donc on a foncé là-dedans. Et on a eu la chance d'avoir des activités à côté qui marchaient bien. Donc, on a pu développer celle-là avec l'aide de la région. Il faut quand même pas oublier l'aide du ministère de la Recherche et de la région Poitou-Charentes, puis Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on s'est lancé. Et donc, c'est vrai qu'on est très pionniers. Et que, alors, la question de la transmission, elle est essentielle. Donc, je sais qu'on n'a pas, et on n'est pas des chercheurs au sens du terme, on ne publie pas. On ne publie sans doute pas assez, donc on a commencé là cet été, puisqu'il y a trois publics qui viennent du CRIT et une de couleur de plante. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y attelle, et je pense que ce serait bien qu'on puisse intervenir dans des écoles d'agro, ça c'est évident. Donc la porte est ouverte, et je pense qu'il va falloir le faire, notamment de ma part, puisque là je suis quand même en train de transmettre aussi aux jeunes qui arrivent au labo, je vais peut-être avoir un peu plus de temps pour ça.
D'accord. Dans les personnes inspirantes pour vous, Anne, dans votre parcours et des personnes qui sont pour vous des personnes ressources, qui citeriez-vous ?
C'est difficile parce que vous en avez déjà pas mal. Il est évident que Dominique est on était encore là ensemble la semaine dernière, et vraiment la personne, à mon avis, voilà, que je citerai d'autant plus qu'on est très complémentaires, on va dire. On va dire qu'on vient pas de des mêmes champs scientifiques. Donc ça, c'est vraiment génial. Pas tant que ça, dans le fond. je suis un peu en panne. Enfin, des personnes inspirantes. Cette dame, mais qui est maintenant en retraite, qui faisait de la restauration d'œuvres d'art, elle m'a inspirée. Ça, c'est, elle a inspiré, elle a donné, elle a impulsé. Les gens qui m'ont inspiré, les agriculteurs avec lesquels on a travaillé, certains qu'on dit OK banco, qui savaient pas, ouais. On a fait des essais avec eux, on s'y est repris à 10 fois, ils ont pas baissé les bras, les personnes inspirantes aussi, et j'en ai pas parlé, de la manière dont on est organisé pour produire on produit les plantes, mais ensuite il faut quand même produire les colorants et les pigments, et là on a des partenaires industriels qui font on leur confie nos plantes et avec nos process, ils fabriquent des batchs importants. Et il y a dans la société Alban Müller International, une personne qui est partie en retraite maintenant, mais qui a été très inspirante, c'est Jean-Marc Seigneret, qui était le directeur de la recherche de Alban Müller International. Il est en retraite depuis 2-3 ans, Jean-Marc, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Ou en tout cas avec lequel on a pu avoir des échanges très, très importants.
Ok, est-ce que vous pourriez faire le choix difficile d'être quelle plante colorante seriez-vous et pourquoi ? Parmi toutes celles que vous connaissez.
Je serais l'indigo ferra tinctoria. parce que j'adore le bleu, parce que c'est la couleur de mes yeux, parce que c'est la couleur de la mer et du ciel qui nous entoure ici, parce que l'Inde m'a fascinée, parce que j'ai trouvé l'accueil là-bas extraordinaire, et parce que c'est le roi des bleus, quoi. Enfin, on n'en démord pas. C'est dommage, hein, parce qu'on l'a pas ici, mais justement, c'est l'attrait de l'ailleurs, voilà. Et puis, ces champs d'indigo, ils sont, on parlait des haies, à la base, les haies, c'est des cocotiers, donc c'est absolument, c'est dans un écosystème magnifique et qui est très préservé en plus. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est l'indigo ferra tinctoria.
Ok. Alors, une question un peu difficile, mais que je veux vous poser. Anne, de quoi vous êtes le plus fière en 35 ans de travail ? Quel est pour vous le projet ou ce que vous avez fait qui vous rend le plus fière ?
Ah, je crois quand même que c'est le symposium international ISEND 2011. International Symposium and Exhibition on Natural Dyes, que nous avons co-organisé avec Dominique en 2011 à La Rochelle. Colloques internationaux qui finalement n'ont plus eu lieu. Le premier était en Inde, il y en a eu un en Corée, un ici, qui a réuni 600 personnes sous l'égide de l'UNESCO, qui a duré une semaine, aux alentours de Pâques, exactement là, tiens, on commençait quasiment en avril en même temps là, qui a été un rassemblement fraternel et scientifique et technique et coloré, qui a fait la part belle à des agriculteurs, à des gens de l'industrie, à des artisans du monde entier. On a beaucoup échangé, on a très bien mangé, on a dansé. Ça a été un moment exceptionnel, c'était sous l'égide de l'UNESCO. On a été récompensé du prix du plus beau symposium international organisé en France en 2011. C'était le premier, donc oui, c'est ça, c'est l'aventure humaine qu'il y a eu autour de ce colloque dont je suis plus fière, et les gens nous en parlent encore et nous demandent en pleurant quand est-ce qu'on en réorganise un autre. Eh bien, je pense qu'il faut passer le flambeau à ceux qui auraient l'énergie pour le faire.
Est-ce que vous auriez un ou plusieurs livres à nous conseiller dans le domaine des plantes tinctoriales ou de la teinture végétale, un livre qui vous a, vous, aidé, plu, sur lequel vous revenez souvent ou qui vous inspire ?
Alors, au risque de vous décevoir, je lis beaucoup, mais j'essaye d'avoir des lectures tout à fait différentes de mon travail professionnel, même si j'adore la couleur.
Vous reposez un petit peu.
Pour me reposer. Alors bon, j'étais dans Pastoureau l'autre jour, mais c'est pas ma tasse de thé complètement. Sur le plan professionnel, je vais plutôt aller lire. J'ai beaucoup aimé toutes les recettes de départ qui avaient été transmises d'ailleurs par Dominique. Mais ça aussi, c'est mon côté poétique, littéraire qui revient. La manière dont ces recettes étaient décrites, qui sont à la fois très amusantes, techniquement très intéressantes et si joliment écrites. Donc non, je ne recommanderais pas de livres. Je recommanderais de lire beaucoup de choses et de s'ouvrir l'esprit de manière générale.
Ok, super. Et si j'avais, si vous aviez un rêve ou un souhait pour la suite, donc par rapport à votre activité, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette activité que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il en découle, qu'il la relève ou la suite? Qu'est-ce que vous rêveriez de voir?
Sur l'activité colorante, évidemment, je suppose que vous vous centrez plutôt sur ça.
Oui.
On a quand même une société privée qui s'appelle Couleurs de Plantes, qui va beaucoup mieux depuis une petite dizaine d'années, donc qui a atteint une rentabilité économique, mais j'aimerais bien, soyons clairs, vu tous les efforts déployés, qu'elle décolle vraiment. Non pas pour gagner beaucoup de sous, parce que ça, je pense que ça ne se fera pas rapidement, mais pour que ces magnifiques colorants puissent être utilisés par un plus grand nombre de gens. Enfin voilà, c'est la beauté et la participation, ce serait notre pierre à l'édifice d'un environnement plus sain pour les générations qui suivent. C'est évident qu'il faut virer la plupart des colorants de synthèse.
Et est-ce que vous auriez quelqu'un à qui vous aimeriez que je passe le micro? Une personne, plusieurs personnes, à qui vous aimeriez passer le relais?
Pour votre podcast,
Oui.
oui, je ne sais pas qui vous avez déjà en fait. J'ai
Ben
quand même des petits
allez-y,
soupçons.
allez-y, donnez des noms et je vais vous dire.
Oui, avez-vous parlé avec Sandrine Rosier?
Je n'arrive pas à voir Sandrine Rosier, je suis à ma cinquième relance. Je n'arrive pas à la voir.
Alors vous allez demander à Sandrine de la part d'Anne, de
Ok.
Camille, pour vous répondre. Encore une personne que j'adore et qui est. Enfin, là aussi, on a des parcours très très différents, donc c'est ce qui fait la richesse. J'aimerais bien
D'accord,
passer
ok.
à Sandrine.
D'accord, ok, très clair. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Anne. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, Arécovert, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!